La vengeance de l'Indien. Voilà bien des années que William et Mary, sa femme, se sont établis dans l'Ouest américain. À force de peine et de travail, leur ferme connaît une certaine prospérité. Ce soir-là, malgré le magnifique coucher de soleil qui rougit l'horizon, William n'a pas le temps de l'admirer. Pour lui, l'important est de préparer ses outils pour la moisson qui commence demain. Il est si absorbé par son travail qu'il ne voit ni n'entend un Indien sortir de la forêt pour se traîner en direction de sa ferme. Lorsqu'enfin il l'aperçoit, son sang ne fait qu'un tour. Il s'avance, menaçant en direction du visiteur. Pour William, tous les Indiens ne sont que des vauriens, des paresseux qui rôdent partout, ne cherchant qu'à vous voler votre bien. « Va-t'en, tu n'as rien à faire ici !» s'écrie-t-il. « Mon frère blanc, ne veut-il pas donner quelque chose à manger et un endroit où dormir à l'Indien fatigué ?»« Tu n'auras rien du tout, espèce de vaurien, déguerpi, si tu ne veux pas tâter de cela !» dit-il en brandissant sa faux. L'Indien se fait suppliant. « J'ai été malade et je n'ai pas pu chasser. J'ai faim. N'aurais-tu pas juste un morceau de pain ?»«
Je t'ai dit de disparaître de ma vue !» hurle William. « Je ne te donnerai rien !»
L'Indien hésite. « Donne-moi au moins une gorgée d'eau fraîche, » supplie-t-il.
« Tu n'as qu'à aller boire là-bas au ruisseau !» lance William en lui indiquant d'un geste la direction.
Un éclair de colère passe dans les yeux de l'Indien. Mais il ne dit plus rien et rassemble ses forces pour se diriger vers le ruisseau. Depuis la fenêtre de sa cuisine, Mary, la femme de William, a assisté à toute la scène. Elle prend alors un morceau de pain, un peu de viande grillée qui reste de midi et un pot de lait. Et alors que William est occupé dans son atelier, elle retrouve l'Indien épuisé, couché dans l'herbe, non loin de là. « Voilà pour toi, » lui dit-elle, en posant la nourriture à côté de lui. L'homme ouvre les yeux et regarde Mary avec reconnaissance. Dès maintenant, Carcucci protégera sa sœur Colombe Blanche. À cause de toi, Colombe Blanche, Carcucci ne cherchera pas à se venger de l'homme blanc. L'été s'achève. Bientôt la nature se revêt de ses couleurs d'automne. C'est toujours avec une certaine appréhension que William aborde la saison de la chasse. Un accident est si vite arrivé. Le fermier préfère de beaucoup cultiver son champ que d'aller à la chasse. Mais il n'a pas le choix car ses réserves de viande sont épuisées. Aller à la chasse, c'est aussi prendre le risque de rencontrer des Indiens. Il arrive même à William de se rappeler la manière dont il a renvoyé l'Indien fatigué qui sollicitait son aide. En y pensant, il n'est pas très fier de lui et finit par s'en ouvrir à sa femme.
Ne t'inquiète pas, lui répond-elle. Elle lui raconte aussi ce qu'elle a fait pour l'Indien épuisé.
Mais si sa femme se veut rassurante, William ne peut se défaire du sentiment d'avoir mal agi. Ces Indiens se souviennent toujours d'une offense et ne pardonnent jamais. »
Les premiers jours de la chasse se présentent magnifiquement.
William rapporte chaque soir du gibier. Marie s'affaire à sécher la viande pour bien la conserver.
Mais un jour, William se perd. Il marche longtemps dans ce qu'il croit être la bonne direction. Les broussailles lui déchirent les bras et les jambes, et au bout de plusieurs heures, il s'assied par terre, complètement épuisé. Il a soif, il a faim, et ne sait plus du tout où il se trouve. William se sent misérable, et en regardant vers le ciel qui commence à s'assombrir, il pense à ce Dieu dont il se sent si éloigné et totalement en désaccord. Tout à coup, un craquement. Le feuillage d'un buisson s'écarte et un énorme buffle apparaît. L'animal fixe un instant le chasseur. C'est alors que les choses se précipitent. Baissant la tête, le buffle fonce sur William. Sans beaucoup viser, celui-ci tire sur l'animal mais sans le blesser. Oubliant sa fatigue, William s'enfuit à toutes jambes, le buffle sur ses talons. Une des cornes de l'animal le déséquilibre et le voilà par terre, à la merci de la bête furieuse. Mais au même instant, un coup de feu retentit. L'animal chancelle et s'abat sur le sol. William se redresse. Dans l'ombre, il distingue la silhouette d'un homme. L'aidant à se relever, celui-ci lui dit simplement « Viens, mon village n'est pas très loin. Tu pourras t'y reposer et reprendre des forces. » Dans l'obscurité et sans rien dire, le fermier suit l'ombre. Arrivé à un village indien, on lui donne de quoi manger, puis on lui indique un endroit où, épuisé, il se couche et ne tarde pas à s'endormir. Le lendemain, lorsque William se réveille, il fait jour. L'ombre de la veille est là devant lui, et en observant attentivement celui qui l'a conduit jusqu'à son village la veille, il se souvient de l'avoir déjà vu quelque part. C'est l'Indien lui-même qui rafraîchit sa mémoire. Il y a maintenant 5 mois, Carcucci est venu chez toi, et tu l'as chassé. Heureusement que Colombe Blanche, ton épouse, lui a apporté à manger et à boire. C'est pour cela que Carcucci a épargné ta vie. Je vais t'indiquer le chemin qui conduit chez toi. William saisit les deux mains de l'Indien, il pleure. « Viens chez moi, je t'invite de tout mon cœur, jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. » Carcucci est accueilli dans la ferme de William et Marie. La bonté de l'Indien a fait fondre la dureté du cœur du fermier. Le fait d'avoir été sauvé de la fureur du buffle et d'avoir été accueilli par l'Indien a rappelé à William un vieux souvenir d'enfance. Comme Carcucci, Jésus a rendu le bien pour le mal. On l'a haï jusqu'à le faire mourir sur une croix. Mais au lieu de se venger, il a donné sa vie pour sauver des méchants. L'un comme l'autre, William et Marie reçoivent chacun dans leur cœur le pardon de Dieu par Jésus-Christ. Il est bon, lui, envers les ingrats et les méchants. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 35. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, de même aussi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 5, versets 20 à 21.